7h25 sur France Culture, l'heure de retrouver le reportage de la rédaction. À l'occasion de la Journée internationale des migrants aujourd'hui, de nombreuses ONG dénoncent le manque de moyens mis en place par les gouvernements européens pour accueillir notamment les 35 000 demandeurs d'asile coincés dans les îles grecques dans des conditions sanitaires catastrophiques. Dans le même temps, certaines ONG s'interrogent aussi elles-mêmes sur leurs propres pratiques d'accueil. Dans plusieurs pays d'Europe, les humanitaires tentent ainsi de mieux répondre aux attentes des demandeurs d'asile via des projets participatifs. Mais dans ce domaine, les associations françaises ont un train de retard. Le reportage de Cécile de Kervas-Doué.
Le principe de co-construction, c'est-à-dire faire avec et pas seulement pour, n'a rien de neuf en France. Il est même au cœur du fonctionnement d'ATD Quart Monde depuis sa création. Pourtant, pour les demandeurs d'asile, ils peinent à se mettre en place au sein des ONG françaises.
À vrai dire, au début, j'étais un peu sceptique. J'y croyais pas beaucoup. Je craignais que la co-construction s'arrête à des réunions de préparation et que quand on passe à l'opérationnel, ce soit nous, salariés de la CIMAD, qui définissions les choses.
Raphaël Fleischmann est responsable de la communication de la CIMAD. Il y a 2 ans, l'association a demandé à ses bénéficiaires de monter de bout en bout une campagne de communication sur le sujet du droit d'asile. Le résultat, des petites vidéos sorties en septembre dernier sous le hashtag « Quand tout bascule ».
Quand mon mari a décédé d'un AVC, la préfecture m'a dit que je n'avais pas le droit de rester en France parce qu'il était mort.
Socorro, qui a prêté sa voix et son histoire à cette vidéo, est mexicaine. Elle est venue en France pour rejoindre l'homme qu'elle aimait. Mais à sa mort, l'administration française lui a demandé de quitter le territoire malgré son mariage avec ce citoyen français. C'est son témoignage qui a poussé une dizaine d'autres demandeurs d'asile à s'engager dans le projet participatif de la CIMAD.
Quand j'ai raconté mon histoire, je lui disais que j'ai commencé à avoir peur et j'étais tellement émue que j'ai commencé à pleurer et quelques autres aussi parce qu'on partageait la même chose. Qu'on a une sensation comme de culpabilité, qu'on ne voudrait pas faire de bruit parce qu'on se sent honteux. Alors, de ça, il a surgi l'idée, quelqu'un a dit « Ah, on pouvait raconter les histoires, parce qu'on parle des migrants, mais il y a des personnes ici. On a le droit de parler, on a le droit de raconter qui nous sommes. On ne peut pas se vivre comme une victime. »
Pour les participants, l'expérience est tellement bénéfique, notamment en termes d'estime de soi, que la CIMAD voudrait bien l'élargir à d'autres activités. Mais ce n'est pas si simple, confie Florent Clouet à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui met en place depuis un an différentes pratiques participatives.
La première barrière, c'est vraiment le changement des mentalités. Beaucoup de personnes qui ont pu accompagner pendant des années étaient sur une logique de charité, avec vraiment cette idée qu'il y ait une personne qui donne et une personne qui reçoive, avec une relation du coup très asymétrique qui peut symboliquement être assez violente. Mais les gens se sont habitués à fonctionner de cette manière et du coup le changement de paradigme en essayant de rendre cette relation beaucoup plus horizontale avec des relations donnant-donnant, elle s'accompagne dans le temps.
Depuis 2002, la loi impose la présence de bénéficiaires dans les conseils d'administration des structures françaises. Mais cette disposition est peu ou mal appliquée. C'est ce qui ressort de l'étude que mène la chercheuse Sophie Bilong depuis 2 ans au sein de l'Institut français des relations internationales.
Donner, ça donne du pouvoir. Et donc faire avec et co-construire, ça veut dire partager le pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui va être long à établir, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives. Il y a des mouvements de citoyens comme Singa, par exemple, qui basent leur travail sur l'égalité. Par exemple, on accueille des jeunes demandeurs d'asile ou des réfugiés en leur demandant quels sont leurs talents, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et on construit en fait les programmes à partir des personnes et non pas en préjugeant de leurs besoins ou de leurs envies. Donc c'est aussi une façon de reconnaître leurs qualités, de les accueillir dignement, et ensuite je pense que c'est plus efficace.
Certaines associations sont donc tentées d'aller encore plus loin. C'est le cas de l'Union des étudiants exilés, qui depuis 2 ans accompagne des étudiants dans leur démarche linguistique, administrative ou de méthodologie à l'université. Dans le bureau de cette association, les Français ne sont pas acceptés. Son fondateur, l'étudiant syrien Rudy Osman, s'en explique.
La majorité des associations là pour aider des exilés, c'est devenu comme des emplois fictifs pour les Français. On ne trouve que des Français pour parler au nom de ces personnes exilées. Le problème, c'est qu'on pense toujours qu'un exilé, c'est quelqu'un qui n'a pas des compétences. Et nous, on a dit, venez, on va changer le rôle. Là, le moyen ici pour l'Union des étudiants exilés, c'est l'expérience de ces anciens étudiants exilés. Et c'est là, en fait, un Français, il n'a pas vécu tout ça. Donc, il ne peut pas être utile. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être dans le bureau. Bien sûr, il y a un danger. Pourquoi ? Parce que ça va créer des communautés et des ghettos, des personnes exilées.
Et c'est un gros risque pour la République, conclut le réfugié syrien. Car déjà, beaucoup trop d'exilés ont perdu confiance en l'État français.
Le reportage signé Cécile de Kervas-Doué, à retrouver bien entendu sur le site de France Culture, franceculture.fr.